RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous. C'est parti pour les GG, pour les grandes gueules, comme tous les jours de 9h à midi en direct sur RMC, la radio. Et RMC Story, la télé. Bonjour Olivier.
Bonjour à tous. Je vous préviens tout de suite, Didier Giraud est bougon.
Didier Giraud, notre agriculteur de Saône-et-Loire. Mais pourquoi donc est-il bougon?
Non, le lance pas, ça va
bon,
le tomber.
Alors attends,
dessus,
voilà. Je présente tout le monde d'abord. Joël Dagosséry, la coach de Villela. Bonjour ma chère Joël. Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise du Touquet, nous a rejoint aussi. Bonjour Emmanuel. Oui,
bonjour à tous. Un salut amical, un fidèle de l'émission, boucher de profession, Anthony en Anjou, le roi de la viande à fondue. Une viande tellement savoureuse que François Hollande la recommanderait même pour les sans dents.
Alors, Didier, pourquoi es-tu bougon?
Rien de spécial. Bonjour Alain. Bonne émission, permettez-moi.
Bonjour à la France profonde.
Bonjour à la France profonde, permettez-moi d'avoir une pensée pour Pierre, qui nous a quittés cette semaine. C'était le directeur de la Chambre d'agriculture quand j'étais un jeune syndicaliste et un fidèle auditeur. Parce qu'il était très fier qu'un jeune syndicaliste paysan ça puisse devenir un chroniqueur parisien. Donc,
il a été avec nous depuis, il faut le rappeler maintenant, 17 ans.
18 ans septembre.
Wow.
Un bail de 18 ans.
Joël depuis 10 ans. Non. Et Emmanuel depuis 3 mois.
Depuis 2 ans et j'en suis très fier.
2 ans déjà.
Ça fait déjà 18 mois de trop, Emmanuel.
2 ans avec sursis.
De quoi va-t-on parler dans les GG, dans les grandes gueules aujourd'hui? D'un film événement, c'est la sortie du film consacré au général de Gaulle. Est-ce qu'on manque de grands hommes aujourd'hui? Il y a toujours cette nostalgie du général de Gaulle. Des congés payés, 15% des Français ne les prennent pas en intégralité. Est-ce qu'il faut les monétiser? Les casseurs du samedi soir, le Premier ministre Sébastien Lecornu veut peut-être taper sur les prestations sociales pour rembourser la casse. D'abord, je vous propose qu'on s'intéresse au dossier judiciaire du moment, la disparition de Liana et une mère qui accuse le suspect de viol. Problème, l'affaire n'a pas été traitée. C'est un nouvel élément qui émerge concernant le suspect numéro 1 qui est aujourd'hui derrière les barreaux. En fait, il était déjà visé par une enquête après le dépôt d'une plainte pour viol sur une fillette de 10 ans. Là, on est à l'été 2025. Écoutez le témoignage de la mère dont la voix a été modifiée pour des raisons de confidentialité.
Ma fille raconte qu'il déshabille dans le lit chez eux, il essaye de pénétrer, que ça fait très mal pour elle, qu'il a fait de l'attouchement du sein, il voulait jouer le jeu de papa et de maman. Elle a un traitement d'antidépresseur, elle a un traitement de somnifère, elle va pas bien. Ses notes à l'école, ils sont chutés, elle a peur de tout. J'ai une culpabilité énorme, que c'est ma faute. J'arrive plus à regarder dans le miroir. Je dis que si le justicier était marché un peu plus vite, peut-être aujourd'hui, Liana, il n'est pas disparu. Ça me met en colère.
Et on comprend que cette mère puisse être en colère puisque la plainte date de l'été 2025. Et d'abord, en fait, c'est parti de problèmes de juridiction.
Oui, parce que s'est-il passé? Alors, il faut bien préciser que là, on parle de viol multiple sur une fillette de 10 ans qui on parle de pénétration. Donc, il y a cette plainte. Et que s'est-il passé depuis le 22 août dernier? Alors, le parquet de Toulouse, qui a été contacté par BFM TV, dit avoir été informé de cette plainte par la brigade de gendarmerie de Plaisance du Touche le 15 octobre 2025. Donc déjà, du 22 août au 15 octobre, il se passe rien. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a un parquet qui a dû se désister parce que c'était pas le bon. Donc tout ça a renvoyé encore le dossier sur d'autres bureaux. Et finalement, la gendarmerie chargée de cette enquête a eu le dossier entre les mains en janvier de cette année. Mais depuis janvier, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que l'homme en question, Jérôme B, 41 ans, père de deux enfants, n'a jamais été entendu sur ces faits. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé l'une de ses avocates. L'enquête, nous dit-on, est toujours au stade de la préliminaire, selon les termes juridiques. Donc effectivement, pourquoi Jérôme B, accusé de faits si graves, était-il libre de ses mouvements? Pourquoi une garde à vue n'a-t-elle toujours pas eu lieu plus de 9 mois après les faits? C'est une situation insupportable, bien entendu, pour la maman de cette fillette. pour les parents de Liana qui viennent de l'apprendre, et j'imagine dans quel état ils doivent être, et on se pose la question quand même, mais qu'est-ce qui déraille dans notre justice ?
Joël ?
Bon, écoute, moi, c'est à se taper la tête contre les murs. Plusieurs fois, j'ai demandé l'opportunité de porter plainte contre l'État pour défaillance complète. Il y a un moment où l'État ne peut pas naviguer, en tout, quand je dis l'État, c'est nos représentants, ne peuvent pas naviguer en toute liberté, tranquillement, sans jamais porter aucune responsabilité, ni démission, ni condamnation, interdiction de se présenter aux élections, rien ne se passe, et à chaque fois, on apprend que l'État était derrière. Tu fouilles, quand tu grattes fort contre un agresseur, quelqu'un de violent, etc. Tu grattes un peu, quelques jours, et tu apprends que cette personne était connue des services de l'État. Enfin, il y a quand même, il y en a marre, quoi. Franchement, il y en a marre. Il y a quelques semaines, je crois que c'était il y a 3 semaines, quand le streamer, là, le youtubeur avait coincé le monsieur avec
le pédophile.
Voilà, ouais, en se faisant passer pour une jeune fille, etc. J'ai lu un communiqué de la police, un communiqué que j'ai trouvé odieux, pour dire que c'était condamnable d'avoir ce genre d'action, que c'était une incitation ou une provocation à l'infraction. Donc en gros, ce youtubeur avait provoqué ce monsieur, ce gros pervers, à enfreindre la loi, ok, et que ça venait ralentir les enquêtes sur lesquelles les policiers étaient. Est-ce que tu entends ? Est-ce que ça, c'est une enquête qui a été ralentie ?
Ouais, est-ce que t'as l'impression... Elle n'a jamais commencé.
Voilà, exactement. Est-ce que t'as l'impression que là, on est les policiers, les services de l'État étaient en pleine enquête sur ce monsieur Jérôme B, et que y avait quelque chose qui se passait. Rien ne se passait. Rien ne se passait jusqu'à ce que cette jeune Liana soit portée disparue. Enfin, je veux dire, mais j'en ai ras-le-bol, quoi.
Un autre drame, Didier.
Écoute, c'est toujours un peu la même chose, et très souvent quand même. Le goulet d'étranglement s'appelle la justice, quoi. La preuve, c'est que les policiers, dans ce qu'il apparaît, ont plutôt fait, enfin, les gendarmes, du coup, ont plutôt fait leur boulot, même si la transmission d'une plainte au parquet qui prend 4 mois, ça me pose quand même question. Ce que je sais dans le Gers, c'est que la procureure d'Auch a quand même été très occupée cet hiver à faire de la répression sur les paysans qui ont empêché, enfin, qui pour certains étaient largement, c'était nécessaire qu'ils passent par la justice parce qu'ils ont fait des faits répréhensibles, mais je sais que tout cet hiver, la répression autour des manifestations sur la DNC a été forte dans le Gers, et l'appareil de justice leur a été dédié tout l'hiver. Ça, j'en suis sûr. Et du coup, je m'interroge, est-ce que ceci peut expliquer cela? Et je veux bien entendre que la justice manque de moyens, mais là, c'est quand même terrible, en fait. C'est que je sais pas ce qui est arrivé à la petite Liana. Ce qui est sûr, c'est que c'était évitable, quoi. Parce que si ce mec-là, il a été coincé à l'automne dernier et il est à la zonzon, eh ben, il fait rien, la petite Liana, quoi. Hein.
4 mois pour
que je dis les gendarmes. Moi, je n'épargne pas les gendarmes dans cette affaire. En fonction des infos BFM TV, la gendarmerie, depuis janvier, elle a le dossier, elle n'en fait rien. Ouais. Pardon. Donc si Jérôme B se serait senti menacé au moins déjà par cette enquête. Si les gendarmes l'avaient convoqué, peut-être cela aurait empêché de passer de nouveau à l'acte avec Liana.
Mais
peut-être qu'il y a d'autres victimes d'ailleurs, parce que entre cette fillette, parce que ça s'est passé, on remonte il y a un an, hein, et Liana, peut-être qu'il y a eu d'autres victimes. On va l'apprendre, à mon avis, ce n'est pas terminé.
Attends, excuse-moi. J'ai déjà porté plainte. Donc plainte pour agression sexuelle. T'as le gendarme qui te reçoit, tu lui expliques tous les faits, etc. Il te pose ses questions, il tape son dépôt de plainte, tu signes, etc.
Et après, ça c'est on était en
2003. Je veux dire, on est en 2026 ou c'était en 2025 quand il a porté plainte. Je veux dire, qu'est-ce qui empêche les services de l'État d'avoir une sorte d'automatisation? On en a tous des automatisations. La plainte, elle est prise pour un tel fait. Un tel délit.
Mais parce que c'est pas une
priorité. T'as un courrier qui part chez monsieur.
Non, mais c'est pas une priorité. Je présume que la gendarmerie de Florence, les enquêtes, ils en ont pas qu'une.
Mais qu'il se fasse installer des automatisations, putain, mais merde, pardon.
Oui, mais il n'y a pas de.
Non, mais la hiérarchisation.
Non, mais la gendarmerie, peut-être qu'il faut prioriser ça plutôt qu'aller faire des contrôles radars, des choses comme ça, par exemple.
Alors, l'explication qui n'excuse rien,
c'est que les gendarmeries, pour le savoir de l'intérieur, sont congestionnées, sont complètement embouteillées de demandes d'enquête. Ouais, donc, par dizaines, voire par centaines pour une petite brigade de gendarmerie.
D'ailleurs, en milieu rural, il y a des trucs où on va plus porter plainte.
J'ai eu des dossiers tout à fait similaires, en termes de gravité, qui sont pendants parce qu'ils ont un nombre d'enquêteurs, des contraintes aussi d'enquête en termes de recours, qui sont excessives et donc même avec la meilleure volonté du monde, les brigades de gendarmerie ont des difficultés. Il y a néanmoins eu une erreur d'appréciation de discernement, oui. En l'espèce, vous venez de l'expliquer. Mais après c'est haut et gaz à tous les étages. Le dernier garde des sceaux compétent, c'était Albin Chalandon de 1986 à 1988. Depuis 40 ans, on a des incompétents qui se succèdent et qui ne font que de la communication.
Emmanuel.
Il y a beaucoup trop de recours. De droit de la défense notamment, faudrait revoir du sol au plafond le droit pénal pour donner place à la sanction, à l'efficacité judiciaire et pas à donner du travail à tous les avocats de France qui sont devenus les nouveaux informaticiens des smicards sans dossier et qui bloquent le droit et la justice des Français.
Je vais te dire pourquoi j'accepte pas cet argument et qui est vrai, t'as raison, je veux dire, dans les faits c'est vraiment ça, mais pourquoi j'accepte pas que les gendarmes se basent uniquement sur ça en se disant on a une pile d'enquêtes. Le temps qu'on convoque monsieur, il faut envoyer un courrier immédiatement. C'est-à-dire que ce monsieur doit avoir peur. Il doit avoir peur. Il ne s'agit pas de le convoquer, il s'agit de lui dire, monsieur, nous avons été informés qu'une plainte a été déposée. Oui, mais d'accord, mais je veux dire, si tu peux pas aller jusque-là parce que tu te dis, on n'a pas assez de place, on n'a pas assez d'enquêteurs. Ce monsieur doit être informé immédiatement qu'une personne a porté plainte contre lui et qu'il est dans les radars de la justice pour le calmer.
J'ai fait
du recouvrement, d'accord? J'ai fait du contentieux. Je peux te dire que va parler à des huissiers, ils savent très bien comment faire peur à des gens sans non plus que la justice soit actionnée. Donc je suis désolée, ce monsieur aurait dû recevoir un courrier qui lui fait peur.
Alors on peut même s'interroger dans le compte à rebours actuel absolument dramatique, est-ce qu'on n'a pas un recours aussi à le faire parler, hein, dans le temps ça existait pour le faire parler ce monsieur.
Alors là t'es en train de parler
pour ça.
Non, là tu fais allusion au fait qu'aujourd'hui il a invoqué le droit au silence, il ne parle pas, il a été mis dans cette affaire Liana, il a décidé de plus parler. Et toi tu vas faire quoi?
Eh ben le faire parler.
C'est-à-dire,
ça existe, il y a des techniques pour faire parler les gens.
Voilà.
Quand on savait dans le temps, dans des situations de guerre, que quelqu'un connaissait un énorme attentat à venir, on le faisait parler.
Il y a aussi quelque chose qui interpelle, c'est-à-dire que lorsque tu vois passer une plainte d'une mère pour une tentative de viol sur un enfant, visiblement, c'est pas prioritaire non plus.
Parce que les enfants, par rapport à des cambriolages ou des accidents, ça ne manifeste pas un enfant, ça ne vote pas.
Ça doit nous interroger aussi quand même.
Si je peux témoigner de ma dernière expérience où j'ai été porté plainte, le gendarme en face de moi, il avait pas internet, quoi. Voilà. Il avait pas internet descend sur son ordinateur. À un moment donné, où vous avez raison, et pour aller plus loin que le constat, je pense qu'il y a des types d'affaires comme cela, les affaires sexuelles, alors sur mineurs, pas sur mineurs, qui devraient être systématiquement prioritaires sur ce qu'on fait en gendarmerie chez nous, les vols de fioul, les vols de câbles électriques.
Emmanuel vient de me traiter de populiste, mais j'assume complètement, je suis désolé, c'est factuel. Le périscolaire...
Répète pourquoi.
Je me traite de populiste parce que j'ai dit les enfants ne votent pas et ne manifestent pas.
Oui,
mais je regarde simplement, factuellement dans l'actualité ce qui se passe. Le périscolaire parisien, c'est-à-dire combien de plaintes, de dénonciation a-t-il fallu pour que enfin le sujet soit pris au sérieux par la mairie de Paris et qu'on en parle dans les médias. D'ailleurs, je remarque que quand c'est le périscolaire parisien dans l'école publique, on fait pas de commission d'enquête parlementaire. Quand c'est une école catholique Bétarame, là, on mobilise le banc et l'arrière-banc du personnel politique. Je ferme la parenthèse. Il y a aussi un traitement, je trouve, un peu deux poids deux mesures, à la fois politique et médiatique, en fonction des affaires qu'on a concernant les enfants. Et là, cette fois-ci, ça nous montre bien. Je veux dire sincèrement, déjà, il y a ce couac avec des parquets qui se renvoient la balle, se dessaisissent, ça prend tellement de temps, c'est des trucs administratifs, mais on est dans la bureaucratie qui nous étouffe, Emmanuel. On perd du temps sur des histoires de dossiers et ensuite la gendarmerie, je suis désolé, à ça. Alors je veux bien, ils n'ont pas assez de moyens, etc. Mais c'était une question de priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire? Sauver des enfants de prédateurs sexuels ou faire des contrôles de vitesse?
Mais les gens qui nous écoutent savent très bien que quand on va porter plainte, c'est une démarche, c'est une catharsis, on se défoule, mais que les plaintes ne débouchent jamais.
160 000 enfants victimes de violences en France. Est-ce que tu as un candidat à la présidentielle qui t'en parle? Non. Quand on parle des enfants, ah oui, plus d'autorité, hein. Ah oui, plus d'orthographe. Une assemblée nationale pour les enfants, une assemblée des enfants.
Ça ne vote pas.
C'était des gadgets.
Je préfère passer des heures à parler de la réforme.
Mais protéger les enfants, 160 000 enfants. T'as pas un candidat qui s'assoit sur un plateau et qui dit ça va être dans mes priorités. Parce que notre jeunesse, elle doit être protégée. Elle dépend de nous en tant qu'adultes. T'en as pas un.
C'est une société qui s'en fout des mômes. C'est une société qui invente des espaces no kids. C'est une société qui veut plus faire d'enfants. Mais pardon, c'est une société qui un jour n'aura plus d'enfants. On sera entre vieux. Et là, on sera là à disserter sur la réforme des retraites. Si vous partez à 63, 64. Mais oui, c'est ça. Est-ce que je passe mon argent dans un PQR?
Et qu'une plainte pour le viol d'une fillette de 10 ans, ça peut attendre 8 mois avant d'être traité.
Voilà.
Mais t'as raison, mais ça reste un constat. Moi, je pense que pour aller plus loin que le constat, il faut passer par la loi, là. Qu'il y ait une espèce de priorisation de ces affaires-là, dans les parquets, dans les enquêteurs. À mon avis, ça doit passer par la loi, parce que je vois pas comment on peut.
Et puis, il faut supprimer l'école de la magistrature qui a fait la preuve de son échec dramatique pour les Français, parce que c'est une école qui forme des juges contre la prison.
Le suspect déjà concerné par une plainte pour viol avec cet embouteillage là, la plainte qui n'a pas été traitée, est-ce que c'est inadmissible? Voilà. On est à 97% de oui, c'est inadmissible. L'Assemblée nationale hier, elle s'interrogeait sur l'après-casse, après la finale, vous savez, de la Ligue des Champions. Que faire? Sébastien Lecornu a une idée peut-être. S'en prendre, piocher dans une partie des prestations sociales pour les casseurs, pour qu'ils puissent réparer, payer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous en discutez avec nous, il est 9h20.
RMC, 9h, midi. Les Grandes Gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les Grandes Gueules, avec Emmanuel Debillier, avec Didier Giraud, le bougon du jour, et Joël Dagosséry, l'énervé du jour aussi. Et avec vous, bien sûr, au 32-16, on va évoquer ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, puisque le gouvernement était interpellé sur les casses après la finale de la Ligue des Champions.
On est sur des dégradations qui coûtent extraordinairement cher à la société. Notre système ne se retourne pas suffisamment vers les auteurs de ces dégradations. Je ne suis pas favorable aux suspensions des prestations sociales. Néanmoins, je crois qu'il y a un chemin de bon sens. C'est de permettre à ces prestations sociales, en dehors du reste à vivre, de financer justement ces réparations. La responsabilité individuelle d'un auteur d'un acte de violence, par définition ou de dégradation, doit pouvoir réparer.
Alors, il a bien précisé le Premier ministre, c'est en dehors du reste à vivre. Il faut en tenir compte et à ce moment-là, on pourra utiliser les prestations.
Alors, Sébastien Lecornu déjà était sur la défensive hier à l'Assemblée nationale parce que objectivement, la soirée de samedi est catastrophique en termes d'image. D'ailleurs, lui-même l'a reconnu. Pour un gouvernement dont on voit bien l'autorité a été bafouée, Laurent Nunez s'est même lui-même, on va le dire, ridiculisé puisqu'il a utilisé le terme. Il a dit précisément la situation était globalement sous contrôle. Bon,
globalement,
là, il se heurte quand même à la réalité de ce qui s'est passé. Et ceci étant dit, on peut rajouter aussi que aucun des délinquants condamnés depuis lundi ne passera une journée en prison. Voilà. Parce qu'il y a des remises de peine, des aménagements, etc. Bon. Donc, la seule solution, c'est peut-être de récupérer un peu d'argent. Le fameux « tu casses, tu payes ». Alors, il est contre la suppression totale des allocations familiales, parce qu'il dit qu'il faut un reste à vivre, d'autant plus que ces allocations profitent en général à toute une famille, si c'est un individu dans une famille. Mais il dit « mais pourquoi pas en prendre une partie ?» pour rembourser les frais de casse, voilà, un abribus, etc. Il faut l'évaluer, je ne sais pas sous quel critère. Est-ce que le principe est bon?
C'est ce que vous en dites. Je remarque dans cette histoire-là quand même que pendant son intervention, si vous avez bien saisi le son qu'on vient d'avoir, Lecornu est invectivé par l'aile gauche du Parlement, quoi. Hein. Ça, on l'a très bien vu à la télé. Ça crie quand il dit, faut aller chercher les allocs. Ça, remarquez-le quand même. Après, alors, je remarque aussi qu'il y a un policier qui a grave déconné, hein, qui est en prison ce matin.
Parce qu'il était ivre et qu'il a sorti son arme et il est allé au trou tout de suite.
Voilà, celui-là, il est en prison directe. Et c'est certainement normal qu'il le soit, que les 11, 17, je sais pas combien de comparutions immédiates, il y en a zéro au Newf. Donc, à un moment donné, moi, ce que je veux, c'est que sur la casse, il y ait 100% de recouvrement. J'en ai rien à foutre de où ils vont chercher les sous. Il faut qu'il y ait 100% de recouvrement de la casse. Voilà. C'est 100% des allocs, je m'en fous. C'est 100% de recouvrement de la casse. Parce que c'est hors de question que mes impôts, que moi je me lève à 4 heures du matin pour aller trimer, pour donner des impôts qui servent à payer cette casse-là, quoi. Donc, à un moment donné, le cornu, il fait comme il veut, il le prend où il veut, le pognon, saisi sur salaire, 100% des allocs, 40% des allocs, je m'en fous, je veux qu'il y ait 100% de recouvrement, c'est tout.
Oui, mais on est loin de ce que tu souhaites, puisque le Premier ministre, tel un philosophe avec nuance à l'heure du thé, il dit je ne suis pas favorable et il répète comme d'habitude nous serons intransigeants, nous ne laissons rien passer, nous serons inflexibles. Le président répète il y en a ras-le-bol, mais ils oublient juste qu'ils sont au pouvoir évidemment. Et il croit que décrire les faits suffit à les régler. Au bout de 10 ans, et quelle honte, vraiment, il devrait partir dans la discrétion. Il ne préconise que des choses.
Je pense que Monsieur Le Cornu partira dans la discrétion.
Oui, mais dans leur loi, dite riposte, ils préconisent de la cosmétique, le durcissement des interdictions de stade, l'amélioration de la vidéosurveillance. C'est pas ça. Quand on constate que quelqu'un tire sur les policiers, on le neutralise immédiatement. On le met en tôle immédiatement et les juges libertaires, c'est après, une fois qu'il aura fait un mois, 2 mois, 1 an de prison.
D'ailleurs, c'est son gouvernement qui a donné les instructions que ça se passe mollo-mollo, quoi.
C'est ce que
disent certains syndicalistes. Parce qu'on aurait aussi pu dire aux gens qui font du maintien de l'ordre, s'il y a casse, s'il y a tir de mortier, s'il y a vol en bande organisée, vous leur rentrez dans l'art.
Les casseurs, parce que ils sont pas tous masqués. Hein. D'ailleurs, on voit sur les images, il y a certains, on voit les visages découverts. Mais la France refuse d'utiliser la reconnaissance faciale. Donc c'est plus compliqué.
Oui, et je suis pas d'accord avec Didier, une fois n'est pas coutume, faut saisir les opportunités parce qu'il a tellement raison en règle générale. C'est quand même scandaleux qu'il y ait 178 policiers et gendarmes blessés. Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est que 178 personnes dans une salle et que le seul type en prison, c'est un policier? Rien que pour ça, il devrait pas être en prison parce qu'on nous raconte, on nous raconte des choses, certainement c'est certainement transformé.
Non mais je pense quand même, pour te répondre du tac au tac, je pense les 178 blessés, c'est parce qu'ils ont l'instruction de ne pas faire de bavure, quoi. Hein.
Bah, c'est ce
et si on leur dit vous rentrez dans le tas et vous vous défendez et vous les chopez tous, à mon avis il y aura pas 178 blessés.
C'est vrai.
Enfin le rapport des blessés s'inversera, quoi.
Joël, avant d'écouter Rémi dans la Drôme.
Non mais la France pense que les allocations familiales c'est la panacée. Là, dès qu'on touche les prestations sociales, attention, oulala, on va toucher aux prestations sociales, ça règle tout. Les prestations sociales, ça règle tout. C'est aussi ce qui fait venir les étrangers. En fait, dès que tu veux expliquer une cause en France, prestations sociales, voilà, c'est le mot magique. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, des prestations sociales et autres aides sociales que la France va aller saisir à ces petits merdeux. Donc moi, ce que j'entends là, c'est que à la fin de ces interpellations, il y a un policier qui dort en prison et zéro délinquant qui dort en prison. Bon, quand tu vois ça, t'as tout dit. Et moi, je te dis un truc. L'année prochaine, troisième étoile ou pas, c'est-à-dire s'ils vont en finale le PSG, personne dans les rues.
Il y a la Coupe du Monde avant, là.
Il y a
la Coupe du Monde.
Il y a la Coupe du Monde avant. Ben, moi, je te dis, personne dans les rues. Personne n'est autorisé.
Pourquoi pénaliser tout le monde?
Non, mais il n'y a pas pénaliser tout le monde.
Bah, c'est pas l'incompétence des uns.
Je suis désolée.
C'est quand il y en a un qui mouffe, on lui rentre dans la gueule.
Excusez-moi,
pourquoi c'est la tyrannie minoritaire?
Mon côté dictateur ressort, je suis désolée. Personne.
Justement, une dictature, en général, c'est injuste.
Personne dans les rues. Ah, on considère que ceux qui sont ce soir-là, je parle pas du lendemain quand on fête le titre ou quoi que ce soit. On considère que ceux qui
les gens feu donc.
Exactement, les gens qui sont là dans les rues le soir de finale sont des casseurs. On considère que ça et que c'est leur risque et péril. Si je te dis
mais
que
Joël,
si,
c'est un aveu d'échec. C'est comme
non,
pourquoi
c'est
on a fait un confinement
mais ça,
pendant
c'est un
Covid
aveu de réussite.
Pourquoi on a fait le confinement?
Parce qu'on n'était pas capable de soigner les personnes.
Pourquoi on a fait un confinement pendant le Covid parce qu'on était incapable de tester et de protéger les populations les plus fragiles. Eh bien là, tu nous proposes la même chose. C'est-à-dire, comme on est incapable d'extirper la mauvaise graine, on va dire, eh bien, on doit punir tout le monde. Moi, je suis désolé, il y a des familles, des jeunes qui ont fait la fête samedi soir.
T'as des casseurs qui se mêlent aux fêtards, etc., aux familles, etc. Le policier, c'est compliqué sa tâche. Lui, il doit discerner de qui est la famille qui fait la fête, du casseur. Il essaye d'intervenir sans faire trop de casse. Terminé, couvre-feu pour tout le monde. Ceux qui sont dehors, c'est à tes risques et périls. Moi, je te dis, non. Écoute, moi, c'est ça y est, je suis à bout de tout ça.
Ce que tu dis, c'est que même pendant les émeutes de Naël, où il n'y avait pas des gens qui fêtaient un titre. C'était que des émeutiers.
Il y a eu un couvre-feu pourtant.
Mais ça ne s'est pas passé comme ça parce que en France, les policiers qui font du maintien de l'ordre ont l'instruction de ne pas faire de bavure.
Oui, mais là, il n'y a pas de maintien de l'ordre. Je considère que si tu es dehors le jour du couvre-feu, tu es en désordre. Il n'y a pas de maintien de l'ordre.
On prend quelqu'un dans la rue en flagrant délit d'attaque aux forces de l'ordre. Il va d'abord en prison, on change les règles, une fois qu'il a fait la prison, on le présente au magistrat libertaire du mur des cons.
On a Rémi qui va intervenir, Rémi qui est arboriculteur. Bonjour Rémi.
Oui, bonjour à vous.
Salut Rémi. Alors, est-ce que Sébastien Lecornu a raison? On essaie de rembourser en allant voir sur les prestations sociales ou pas?
Oui, complètement, mais moi j'irais même plus loin en fait. Comme je disais aux standardistes, il y a un problème de fond, un problème de forme. Le problème de fond dans ce pays, c'est qu'il n'y a plus d'éducation. C'est des gens, les casseurs, c'est toujours les mêmes, que ça soit pour Naël, le foot, tout ce que vous voulez. C'est des gens qui, pour moi, ont la haine de la France. Ils cassent tout juste pour emmerder, en fait, notre pays. Il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien dans ce pays, il n'y a plus rien qui va. Maintenant qu'on a dit ça, les gens, là, on les a vus, on les avait sous la main. Ben moi, c'est prison directe, ferme. Voilà. S'il n'y en a pas assez, on en construit, tout simplement. Et moi, j'aurais même un autre remède, à la limite. Pendant les manifestations, on dit aux gendarmes, bah, écoutez, dans un premier temps, vous tirez avec le LBD à vue et dans la tête, et si ça ne suffit pas, c'est à balles réelles. Et puis au bout d'un moment...
Non, on ne peut pas appeler à tirer à balles réelles.
C'est le shérif.
Quand un jeune vous tire dessus avec du mortier, vous croyez quoi? Vous croyez quoi, que c'est une tentative d'assassinat?
Ce que dit Rémi choque, mais écoutez bien, ça va se terminer comme ça de toute façon.
On peut peut-être réfléchir avant d'utiliser les balles réelles quand même à une autre doctrine, une autre stratégie.
Vous avez vu qui c'est qu'on a en face, honnêtement?
Oui, je sais bien. Mais regardez Rémi, aujourd'hui et on entend les policiers d'ailleurs le dire, c'est-à-dire que ce qu'ils doivent faire, c'est rester en poste et ensuite permettre à des brigades qui, elles, sont beaucoup plus mobiles, de faire des interpellations. Le problème des blessés, des policiers, ce sont ceux qui ont subi pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures. C'est là qu'ont eu lieu les blessures. Oui, mais tu peux pas dire que tu ne répliques pas avec une arme létale, si tu veux.
Et des interpellations qui servent à quoi? Notre justice, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle les interpelle, elle leur dit
allez-y. Pour aller dans le sens de Rémi, il faut que les gens qui nous écoutent aussi se rendent compte, il y a eu plus de 800 interpellations. Vous vous rendez compte de la difficulté physique, de la prise de risque d'interpeller une personne? On en interpelle 800, il y a personne qui va en prison, c'est une honte.
Je suis absolument d'accord, monsieur De Villiers.
Mais voyez Rémi, en fait aujourd'hui on se rend compte que ce que l'on préfère, alors c'est à tort au regard de ce que ressent aujourd'hui la population française, c'est de voir des abribus qui soient cassés, des voitures qui soient cassées, plutôt qu'ensuite d'avoir à ramasser des gamins ou des jeunes qui soient blessés ou estropiés
sur le sol. Moi je crois que c'est même plus ça, parce que les images, elles sont catastrophiques.
Ah mais je suis d'accord,
donc,
c'est catastrophique.
Donc je suis pas sûr que Lecornu, il en profite politiquement, si tu veux. C'est plus 10 pour Bardella, donc je crois pas que le gouvernement se dit, laissons faire, parce que c'est terrible. Je veux dire, si on votait dimanche, t'aurais une sanction immédiate dans les urnes. Donc, non, je pense qu'ils sont... désarmés. Moi, je pense qu'ils savent pas quoi faire. C'est plus inquiétant, c'est que c'est pas organisé, c'est qu'ils sont dépassés. Quand j'entends Laurent Nunez, pardon, je vois un homme
par le cadre.
Dépassé par les événements.
Ils sont dépassés par le cadre français du maintien de l'ordre.
Et donc, moi, je trouve ça très inquiétant parce que ils n'ont pas de solution. Ils sont là. Alors, c'est des mots toujours. Oui, on ne plus jamais ça, etc. Les prestations sociales, j'y crois pas un instant. Je pense que ça ne se fera absolument pas.
Bien sûr.
Ça, c'est des effets d'annonce. Et ce qui plus inquiétant, à mon avis, pour les citoyens comme Rémi Daud, c'est que ils savent que ça va recommencer parce que on a des autorités qui sont dépassées.
Je veux dire, il faut voir moi tous les stratagèmes que j'ai fait juste pour que ma fille puisse profiter de la fête. Donc elle est partie chez une copine, Porte d'Auteuil. J'ai dit.
C'est à côté du Parc des Princes.
Voilà, exactement. Voilà. Et donc je lui ai dit, tu dors sur place. Tu ne sors pas, tu mets pas un pied dehors, tu dors sur place. Une autre copine à elle était partie chez une copine, Porte de Saint-Cloud. Cette copine, elle, voulait rentrer chez elle. Elle avait peur, donc elle appelait ma fille pour lui dire, j'ai peur de rentrer seule, est-ce que tu veux pas rentrer chez toi? Comme ça, on se retrouve. Et il fallait voir le dilemme dans lequel j'étais entre dire à ma fille, non, tu n'aides pas, entre guillemets, ta copine, parce que, en fait, j'ai peur que tu sortes, et laisser une autre jeune fille avoir peur à Porte de Saint-Cloud. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. C'est pas normal que des gens normaux ne puissent pas sortir, soient cadenassés chez eux, parce qu'il y en a qui sont
confinés.
Oui, mais parce
c'est
que
pire.
C'est différent.
Sortira plus jamais.
Oui, mais non. J'ai pas dit que c'est à chaque fois. Je dis que il faut le faire une fois. Il faut le faire une fois, interdire aux gens de se sortir dans la rue. Et il y en a qui vont sortir. Et ceux qui sortent, on les considère comme des casseurs. Je suis désolée. Et la police intervient directement. Oui. Et ils vont en prison. C'est pas ils sortent demain avec des selfies ou des Snapchat.
Pour prolonger le propos, effectivement, comme le disait Olivier Truchot, il y a un tel ras-le-bol. À l'orée de la Coupe du Monde, on donne un signal aux jeunes qu'il n'y a pas de répression.
Ouais,
donc là, Bardella, il pourrait avoir 15 ans. Et même si sa copine est particulièrement stupide, il va passer quand même.
Ouais, mais non, mais tu dis qu'elle est stupide.
Pourquoi elle prend un tacle, une balle perdue.
Je dis que même si le président Jordan Bardella avait 15 ans au lieu de 30, et même si sa copine était perçue comme stupide par hypothèse d'école, il va quand même être élu.
Tu vois, il y a quelque chose que je remarque quand même, c'est que, alors tu vas me dire, c'était des vrais supporters. Il s'est rien passé en Hongrie, quoi. Aux abords du stade, il s'est rien passé en Hongrie. Et moi, je signe et je persiste, c'est le cadre juridique français du maintien de l'ordre qui fait qu'on en est arrivé là. Voilà.
Merci Rémi d'avoir été avec nous. Rémi qui veut qu'on emploie maintenant la manière forte. Est-ce qu'on doit taper dans les prestations sociales? Est-ce qu'on doit aujourd'hui, pour payer la casse, y aller fort? Vous dites oui à 98,5%. Dans un instant, le on s'en fout, on s'en fout pas. Restez avec les GG, avec les grandes gueules sur RMC, RMC Story, il est 10h-20.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG avec vous, bien sûr, comme tous les jours, de 9h à midi. Joël Dagosséry, Didier Giraud, Emmanuel Devilliers sont les trois grandes gueules du jour. On va passer maintenant, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Avec Anaïs Inès Sainz. Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Comment écrivez-vous, les GG, le mot dilemme?
Dilemme.
Alors, Olivier, vous n'avez pas le droit de répondre, évidemment.
Ah bah, c'est pas compliqué. D-I-L-E-M-N-E.
D'accord.
Faux.
M-M-E.
Pourquoi?
Deux-M-E.
Bravo, Joël et Didier. Bon, ça va, en tout cas, vous n'êtes pas ministre de l'Éducation nationale.
Ils sont même meilleurs.
Mais ils sont meilleurs. Bah, pas Emmanuel. Parce qu'Edouard Geffray, qui prône pourtant l'intransigeance auprès des élèves, n'a pas su l'écrire correctement hier sur le plateau de « C'est à vous, écoutez, c'est pas Jojo ».
Dilemme.
Ça s'écrit dilemme. Ah bon?
Je crois qu'on peut écrire les deux.
Il me semble
que les deux orthographes sont procédés, non?
C'est deux M, vous voyez.
Autant pour moi.
Rhododendron.
Bon, là, c'est vraiment pour,
juste pour être dindron.
Alors, c'est RH.
Ouais.
Ah ouais, bien joué, déjà.
Rhodo.
Ouais. Et ça s'écrit dendron.
Bravo!
Ah bah là,
alors là, franchement, chapeau.
Là, t'es dur avec lui parce que Rhododendron, je pense que c'est plus dur que Guilhem.
Bah oui, mais bon, s'il se foire, si je peux m'exprimer ainsi,
tu auras
un mot facile. On s'en fout pas, Joël.
On s'en fout pas.
Didier.
Bon, on s'en fout un peu.
Emmanuel.
On s'en fout.
Bon, Joël, pourquoi tu t'en fous pas?
Ben non, mais c'est pareil, les ministres, ils se font toujours prendre la main dans le sac avec les tests, c'est-à-dire qu'ils te prônent plein de trucs. Et puis, on leur fait un petit test sur le prix du lait, le prix de la baguette.
Bruno Le Maire sur une multiplication.
Voilà, sur une multiplication.
Le prix du ticket de métro.
Il sera lundi dans les GG, Bruno.
Donc, il ferait mieux d'être un peu plus humble. Bien sûr, de faire son travail. Il a raison de pointer l'orthographe, etc. Mais de voir que c'est pas si simple, la langue française, quand même.
Bon. C'est marrant, moi, je me serais planté sur dilemme.
Ah oui. Bon?
Et Rhododendron. Sur Rhododendron.
Pourquoi tu veux mettre un
Rhododendron?
Rhododendron, moi je me suis planté, je me serais planté moi.
Mais en fait, dilemme.
Moi je l'écris.
Les deux s'écrivent certainement.
Ouais, avec deux M. Je regardais si on acceptait aujourd'hui dilemme. Ah, non, c'est
un barbarisme avec un M.
Tu vas avoir raison avec Google, toi. Hein.
Non,
alors que
non,
le dictionnaire
non.
dit 2M, tu cherches sur Google c'est pour
deux,
avoir raison.
C'est deux, terrible, deux, c'est. Non, non, c'est 2M, E. Bah, on a bien accepté les haricots de pouvoir prononcer les haricots.
C'est parce qu'on est trompé par la prononciation que le deuxième M, donc. Le
dilemme, c'est un dilemme.
Un dilemme. Mais non,
c'est
jamais
dilemme.
On se trompe pas dans la prononciation,
le triangle des Bermudas.
Allez, élevé notre triangle des Bermudas.
Attends, deux secondes, parce qu'on dit Rhododendron,
c'est piégeant.
C'est dendron.
C'est,
alors c'est rhododendron.
Ah bon, oui.
Est-ce qu'on y a, ça s'écrit dendron.
Ouais, mais bon, bref, tu parles du nez.
Non, je pense qu'on peut pas, on peut pas non plus accabler Monsieur Geffray sur ça.
Mais oui, c'est un peu cruel. Bon, l'œuvre de l'artiste JR, vous savez, qui recouvre le Pont Neuf à Paris, vous l'avez forcément vu passer sur les réseaux sociaux. Eh bien, 4 jours avant son ouverture au public, elle est déjà endommagée. Par quoi les GG? Ben tout simplement par le coup de vent hier à Paris hier soir. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Emmanuel?
C'est quoi encore cette connerie? Moi je m'en fous.
Ah, Joël. Didier?
Ah ben je m'en fous pas, pour dire que c'est une connerie, il faut pas s'en foutre, Emmanuel.
Bon, l'ouverture a donc été reportée. En fait, l'œuvre en toile a simplement été déchirée par endroits, laissant apparaître la structure gonflable en dessous. Bon alors Didier,
la caverne. C'est un truc de parisianisme ça. Enfin,
maintenant ça a fait le tour du monde.
Là
c'est ridicule pour et ça fait.
Ben, c'est ça. Enfin, ça ridiculise à la fois l'œuvre. Enfin, ceux qui savaient pas qu'on allait emballer le Pont Neuf, qui est le plus vieux pont de Paris, maintenant ils le savent et que ça soit une œuvre. De quelqu'un de très connu et qu'en plus au premier coup de vent ça dégage avant l'ouverture, enfin voilà.
Et qui paye et ça coûte combien?
Non, c'est privé. Pas d'argent public.
Ou alors c'est ce qu'on nous dit. Bah si, il y en a quand même un peu parce que la circulation qui est détournée, tout ça c'est pas un par les pouvoirs publics.
Oui, c'est un coup. Non mais ce que je trouve.
Mais elle-même non.
Non mais c'est quand même une info très parisienne.
Non mais je remarque qu'il y a un mépris des provinciaux. Les gens sont.
On l'assume.
Très souvent, pour cette œuvre, chaque fois, j'ai entendu critiquer. C'était un provincial comme Didier, qui ne connaît que ses bœufs et ses vaches. Moi, je la trouve.
Ça nous pose pas de problème.
Je la trouve très belle. Vraiment, je trouve que c'est bien habillé.
Qu'on le
temps
et que ça
que...
foutre.
Ben non, mais je trouve que c'est une mise en scène. Oui, mais
tu trouves ça beau, sincèrement?
Ouais, franchement, j'aime bien.
Ça enrichit le quartier.
J'aime bien, je serais allée le voir. Non, mais il n'y a pas d'enrichissement, mais des fois, il faut habiller.
Ça embellit le quartier.
Non, mais il y a un moment, une ville comme Paris, qui est une ville éternelle.
C'est-à-dire que moi, je me mets à la place du touriste. Si tu veux, qui vient voir le Pont Neuf, tu sais.
En plus, c'est un très bel endroit parce qu'il y a l'île Saint-Louis et la Samaritaine, c'est ça.
Il y a du vent à 7 km/h et
des plus belles cartes postales de Paris.
Et il y a le film de Léo Scarrac, je crois, Les Amants du Pont Neuf. Les Amants du Pont Neuf. Bien sûr.
Si on veut voir le Paris éternel,
le type, il a pris son billet, il fait son voyage, il vient juste pour un week-end et faire une photo sur le Pont Neuf.
Oui, mais il y en a qui sont très contents, qui viennent de l'étranger, de voir une œuvre.
Parce que c'est Instagrammable, c'est un truc de réseaux sociaux pour faire Joël. C'est le fil devant.
Mais on vit pour ces influenceurs, bientôt vous me verrez devant.
Mais voilà,
avec sa belle chemise rose.
Après, c'est un ballot de ne pas avoir prévu le vent, quand même.
Cette vidéo, si vous l'avez vue, vous avez dû la voir passer sur votre feed Insta ou Facebook. La maire de la commune de Bouffémont, dans le Val d'Oise, qui arbore un maillot floqué du criminel Redouane Faïd le soir du sacre du PSG.
Elle a pas vu.
Est-ce qu'on s'en fout ou pas? Attendez, est-ce qu'on s'en fout ou pas, Joël?
Non, on s'en fout pas.
Didier?
On s'en fout pas.
Emmanuel?
On s'en fout pas.
Bon, face à la polémique, Karine Okonski, c'est son nom, assure ne pas avoir fait attention au flocage et là, vivement condamné. Attendez, s'il vous plaît. On rappelle que Redouane Faïd, braqueur multirécidiviste, purge une peine de 25 ans en ce moment de prison pour le braquage raté du fourgon blindé qui avait entraîné la mort d'une policière municipale, Aurélie Fouquet. L'euphorie de cette soirée a fait faire n'importe quoi à certains élus. Ouais. On a vu aussi Carl Olive, le député des Yvelines, sur le capot d'une voiture.
C'est la même chose.
Emmanuel.
C'est pas compliqué. Il y a dans le droit français des modalités préfectorales qui autorisent un préfet à démettre un maire. C'est de l'ordre de cette mesure, c'est-à-dire qu'elle doit être retirée de ses fonctions immédiatement et qu'il y a un nouveau vote au sein du conseil municipal.
Ok. Elle a pas fait attention.
Mais qu'est-ce qu'il y a,
mais c'est l'apologie de la criminalité.
Mais c'est pour faire des selfies en plus. On s'en fout de cette culture des réseaux sociaux.
Mais c'est pour faire des selfies. Pourquoi tu crois que Carl Olive, il monte sur un capot de bagnole? C'est pour faire des selfies. C'est pour faire des images. C'est super.
Et s'il avait pu faire son selfie devant le pont à la con, il l'aurait fait.
Moi, je crois que cette dame qui fait l'apologie de la criminalité.
Vous êtes.
Moi, je suis désolé. C'est l'apologie de la criminalité. Elle doit être démise de ses fonctions.
Fasse une recherche Google à chaque fois.
Je rappelle que Madame la maire est avocate.
Enfin, oui, mais quand même.
Personne ne sait qui c'est.
On voit bien que c'est dans l'action. C'est-à-dire, elle reçoit le maillot. Tac,
elle
l'enfile.
Bravo, Madame Okonieski.
Voilà, elle s'est amusée avec ses amis.
Elle est élue, un peu de retenue.
Mais c'est ses électeurs qui lui ont proposé le maillot.
C'est pas pareil que Carl Olive qui monte sur une bagnole. Ça, c'est pas la même chose. Pas du tout. Non. Ça n'a rien à voir. Elle a voulu juste emmailler un maillot.
Ils veulent tous se mettre en scène parce qu'ils se disent cyniquement que c'est un moment qu'ils vont pouvoir récupérer politiquement cet événement, etc.
On va capitaliser. Et celui de Redouane Faïd, je suis désolé, ça fait avoir des voix.
Et chez certains, ça dérape. Comme elle ou Carl Olive.
Il n'y a pas beaucoup d'occasions pour un maire de sortir de son costume et de tout d'un coup se mêler à ses amis, de la communication.
C'est de ce qu'on appelle de la pêche aux voix, c'est de la démagogie.
Et sûrement que Redouane Faïd, c'est porteur dans certaines villes.
Absolument.
Ah bon, carrément,
s'il y a quelqu'un qui a fait un maillot Redouane Faïd, c'est que c'est quand même.
Et qui propose à sa mère de l'enfiler,
c'est pas. Dans certains quartiers.
Deux évasions de prison.
Mais si.
Ben oui,
c'est une
sorte. Sinon, tu ferais pas des maillots à son nom.
Non, mais c'est une personne qui a fait un maillot à son nom.
Et qui accepte de Redouane Faïd, déjà?
T'es une idole des cités, faut arrêter.
J'ai jamais dit. Il est présenté comme un héros.
Mais regarde les images, Joël, bordel.
Oui, je regarde.
Tu les vois, les images?
J'ai vu une mère.
Ils sont en transe autour d'elle parce qu'elle accepte de faire ça. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi.
Voilà.
Redouane Faïd est une idole là-bas. Je sais même pas quelle ville c'est, mais Redouane Faïd est une idole.
À Bouffémont,
dans le Val d'Oise.
Dans le Val d'Oise, dans le 95. D'ailleurs, le maillot est floqué Redouane Faïd 95.
Dans cet endroit-là, c'est une idole.
Elle savait pas. Elle a voulu faire.
Oui, elle sait rien. Si elle est
de Creil.
Si elle sait rien, elle est pas mère.
Donc, elle vient avec quatre enquêteurs avant de faire.
Redouane Faïd, tout le monde sait qui c'est, Joël. On voit à Saint-Denis aussi. Les élus.
Attendez, parce que là, on a un petit chef-d'œuvre à vous faire écouter.
D'arbres viennent me chatouiller les narines, ça me fait des cloques sur la poitrine, sur le bout du. Mais j'aime pas les rhododendrons.
C'était Sim, une chanson immortelle. J'aime pas les rhododendrons. Comme ça, vous aurez révisé à la fois la chanson française et l'orthographe. Dans un instant, est-ce que vous souhaiteriez vous faire payer les congés que vous ne prenez pas? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules.
Ça veut tout dire. Faudrait pas croire que j'ai de la haine pour ces petites fleurs qui ont plein de graines dans mon jardin. Il y en a plein et je ne vais plus dans mon jardin si seulement.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.